au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour Mathieu Tessier à la régie?
Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette question.
C'est vrai ça, je ne la fais
pas
souvent.
Ça fait au moins 4 mois.
Ben, c'est ça, parce que ça fait au moins 4 mois. Non, je vais pour dire ce matin parce que c'est mieux que 4 fois adieu, tiens.
Oui, ça c'est certain.
Hey, une grosse journée chaude aujourd'hui, je commence tout de suite par vous le dire. Ça, il va faire chaud pas mal partout au pays. Québec, province atlantique, soleil, quelques passages nuageux. Surtout au Québec, les nuages. 40% de possibilité d'affaires cet après-midi, c'est au Québec. Maximum 27 à 29, humidex jusqu'à 34, indice UV autour de 7. C'est plus frais à Terre-Neuve et Labrador. Et c'est chaud aussi en Ontario avec un avis de chaleur jaune et qui s'étend jusqu'en Abitibi. Et en fait, la vie tourne à orange dans le nord de l'Ontario où on prévoit 38 degrés, des humidex à 39. Avis aussi de chaleur orange Manitoba. Là-bas, l'humidex est à 44. Dans l'ouest du pays, ça reste chaud. C'est plus frais en Colombie-Britannique. Aujourd'hui à l'émission, on accueille une nouvelle personne, un nouveau chroniqueur. Bonjour, Pierre Perrault.
Ah ben bonjour, Denis Martin.
Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Pierre va remplacer pendant son absence Louis de Bernis et il va aussi nous faire de l'insolite. Pierre, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu?
Moi, je suis un gars qui travaille en communication depuis très, très longtemps. J'ai touché pas mal toutes sortes de médiums, de médias, de faire divers types d'emplois, de... Mais j'ai toujours fait uniquement de la communication dans ma vie. Alors, je m'amuse la plupart du temps. Je suis pas un carriériste. Je choisis de faire des choses que j'aime.
Bien, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de quoi à cette chronique aujourd'hui?
Ah, on va parler... Moi, j'aime ça quand je vais quelque part, de raconter ensuite aux gens ce que j'ai fait, puis qu'ils disent « Ah, je connaissais pas ça ».
Ah.
Ben voilà, c'est de ça qu'on va parler. Des choses intéressantes à faire à Montréal et ailleurs en région. Puis c'est parfait, là, c'est les vacances. On cherche des activités. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui 2 activités, une à Montréal, une à Mauricie, qui sont insolites et que la plupart des gens ne connaissent probablement pas.
Ben, on a hâte de découvrir ça. Moi, de mon côté, on va recevoir aujourd'hui la grande Chloé Sainte-Marie, qui a reçu l'Ordre du Canada. On va aussi parler... du festival « Mille et une patentes qui bougent », qui se déroule donc à Val-David. On va recevoir Alexandra Maltais, qui est la vice-présidente chez Randstad Canada, qui a fait une étude sur les Gen Z, ce qu'on les appelle, Génération Z, et leur relation au travail. Et on va aussi parler d'un nouveau laboratoire qui est à l'UQAM, qui est adapté pour les personnes en situation de handicap. Et puis, à l'éphéméride du jour aujourd'hui... Ah, la belle voix de Freddie Mercury qui est décédé, on le sait, du VIH. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, le 13 juillet, mais en 1985, c'était le Live Aid, un concert caritatif organisé simultanément à Londres et à Philadelphie qui rassemblait les grandes stars de la musique pour collecter des fonds pour la famine en Éthiopie. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, le 13 juillet est célébré comme la Journée internationale du rock en commémoration de ce grand, grand concert. Et puis, en 1923, le célèbre panneau Hollywood Land est officiellement dévoilé sur les collines de Los Angeles. Initialement conçu pour une publicité pour un lotissement immobilier, ce panneau deviendra le symbole mondial de l'industrie du cinéma. En fait, les dernières lettres, L-A-N-D, a disparu, devenu Hollywood. Et puis, pour nos amis français, dont ce sera demain la journée de la prise de la Bastille ou la fête nationale, aujourd'hui, c'est la journée nationale du baiser. Nous, on l'a fait la semaine dernière. Alors, bonne journée du baiser. Encore un autre, get ready with me dans la salle de bain. Je commence sincèrement à penser qu'on va partir demain. Le temps y passe lentement. Je peux pas croire que tu vois parce que les autres voient en toi. But I'm just saying, t'as pas besoin de porter du make-up à tous les fois qu'on se force en being honest, got a rien à cacher. Ça paraît, tu sais, ça sert à quoi de
know what you got going on. High heels, j'entends tes pas quand tu sors de ta chambre. Inquiète-toi pas, t'es fait de la même matière qu'un disque d'or. Tu fais tourner la tête de tout le monde dès que tu mets un pied dehors. Ouais. Lentement, je peux pas croire que tu vois pas ce que les autres voient en toi. But I'm so sane. Confiance en toi dépend des gens qui t'entourent. T'as pas besoin de porter du make-up à toutes les fois qu'on se force. I'm being honest quand t'as rien à cacher. I wanna make love comme la première fois. Tu te vois pas comme je te vois, ça paraît ici. Ça sert à quoi, baby, d'avoir tout pour toi. That's why you gonna do is get it away. T'as pas besoin de porter du make-up. T'es tellement belle. I wanna make love comme la première fois. Tu te vois pas comme je te vois, ça paraît ici. Ça sert à quoi, baby, d'avoir tout pour toi. All you're gonna do is give it away. T'as pas besoin de porter du make-up. T'es tellement belle, t'en as même pas idée.
Make-up, une chanson de Stat.
Léon, aujourd'hui dans la presse plus, les membres de la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord ont rejeté à 63 % l'entente Aishkat. Aishkat, c'est toujours pas des mots faciles à prononcer parce qu'on n'est pas habitué, on ne parle pas assez souvent les langues autochtones, ou du moins on ne prononce pas assez souvent les noms. Alors Aishkat, c'est une entente qui a été négociée avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec lors d'un référendum qui a été tenu hier. Donc le projet prévoyait des compensations financières de plus de 2,5 milliards de dollars sur 50 ans pour les installations hydroélectriques historiques sur leur territoire traditionnel. En contrepartie, le texte prévoyait l'interdiction de contester devant les tribunaux les infrastructures existantes et ouvrait la porte à de futurs développements énergétiques par la société d'État. Hydro-Québec dit qu'elle respecte la décision de la communauté et qu'elle demeure ouverte au dialogue. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, a déclaré prendre acte du résultat et qu'il ferait le point rapidement avec les élus de Pessamit. La communauté a eu moins d'une dizaine de jours pour s'informer et débattre de l'entente intervenue entre Hydro-Québec et son conseil de bande. C'est le conseil de Pessamit lui-même qui a choisi de tenir un référendum rapidement afin de clore le dossier avant les élections de ses dirigeants prévues à la mi-août. Dans le Devoir, les forces militaires des États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre des positions côtières et des infrastructures de télécommunications en Iran. Ces bombardements font suite à des tensions accrues dans le détroit d'Ormuz, où Washington accuse Téhéran d'avoir ciblé des navires commerciaux. En réaction, les forces iraniennes ont orchestré une riposte d'envergure en lançant plusieurs vagues de missiles et de drones vers des installations militaires stratégiques situées dans le Golfe. Les forces iraniennes revendiquent avoir ciblé des bases accueillant du personnel et du matériel états-unien, notamment le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, ainsi que des infrastructures militaires au Qatar, au Koweït et en Jordanie. Les systèmes de défense anti-aérienne de la région ont intercepté une partie des projectiles, tandis que des explosions et des incendies ont été signalés à proximité de certaines cibles. Dans la presse plus, une fin de semaine particulièrement violente à Toronto a fait au moins 3 morts par balle et plusieurs blessés lors d'incidents distincts. L'événement le plus marquant est survenu samedi soir lors du festival de rue Salsa on St. Clair. Une fusillade a éclaté au milieu d'une foule estimée à 13 000 personnes. Un échange de coups de feu entre des individus a causé la mort de 2 hommes et a fait 4 blessés graves. Cela a forcé les organisateurs à annuler la suite des festivités prévues dimanche. Aucun suspect n'a encore été arrêté pour cet événement. Ce drame s'ajoute à une autre fusillade mortelle survenue vendredi soir dans le secteur des avenues Jane et Shepherd, où un homme de 22 ans a perdu la vie et 2 autres personnes ont subi des blessures. Encore dans la presse plus, un violent incendie survenu hier soir dans un bar-restaurant de la périphérie de Bangkok en Thaïlande a causé la mort d'au moins 27 personnes et fait 63 blessés, dont 22 se trouvent dans un état critique. Le feu s'est propagé très rapidement jusqu'au plafond de l'établissement. Il a provoqué un mouvement de panique généralisé parmi les clients. Selon les premières constatations des autorités, plusieurs victimes ont été piégées en fuyant vers des toilettes sans issue. D'autres se sont retrouvées près d'une sortie de secours qui était potentiellement bloquée. Les pompiers déployés sur place sont parvenus à maîtriser le brasier après une trentaine de minutes d'intervention. Une enquête policière officielle est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. L'acteur néo-zélandais Sam Neill est mort à l'âge de 78 ans. Sam Neill était un acteur à la fois raffiné, élégant et polyvalent. Sa carrière l'a amené du cinéma d'art et d'essai aux superproductions. On se souviendra qu'il a échappé au Vélociraptor dans le parc jurassique ou incarné le mari de Holly Hunter dans La leçon de piano. En 2023, Sam Neill avait révélé qu'on lui avait diagnostiqué un lymphome angio-immunoblastique à cellules T, une forme rare du lymphome non-Hodgkinien. Dans les paractualités maintenant, le déploiement, c'est dans le devoir d'hier, le déploiement du nouveau dossier santé numérique engendre des perturbations majeures dans la prestation des services de soins à domicile au Québec. Les professionnels du réseau de la santé signalent des dysfonctionnements informatiques récurrents lors de l'accès au profil des patients. Ces anomalies techniques entraînent des retards dans la transmission des plans de traitement des ordonnances. Les syndicats d'infirmières et d'auxiliaires dénoncent une surcharge administrative importante liée à la lourdeur du nouveau système. Le personnel consacre une part accrue de son temps de travail à la saisie de données plutôt qu'aux soins directs. Le ministère de la Santé reconnaît des difficultés d'adaptation et promet des correctifs techniques. Communiqué du 9 juillet 2026, Natation Canada honore le nageur paralympique Benoît Huot. L'organisation a annoncé son intronisation dans son cercle de l'excellence. Au cours de sa carrière sportive, l'athlète québécois a remporté 20 médailles paralympiques, dont 9 d'or et 5 participations aux Jeux. Il détient également plus de 30 médailles obtenues lors des championnats du monde. Benoît Huot a pris sa retraite de la compétition officielle en janvier 2019. Journal de Montréal, le 10 juillet, rappelle sur la nouvelle loi du gouvernement du Québec qui facilite l'hospitalisation forcée pour les proches en crise de santé mentale. Cette loi a été adoptée dans l'espoir de prévenir des drames comme le meurtre de la policière Maureen Brault en mars 2023. À l'époque, la policière avait été tuée par un homme en crise. Le comportement agressif de l'individu avait pourtant été signalé en vain aux forces de l'ordre par sa famille quelques jours auparavant. La coroner Jeanne Kamel avait ensuite formulé 38 recommandations pour éviter d'autres tragédies du genre. Adoptée in extremis en fin de session parlementaire, la loi 23 élargit les critères d'intervention. Le danger pour la personne ou son entourage n'aura plus besoin d'être grave et imminent. Les autorités pourront agir si le risque est jugé raisonnablement prévisible, par exemple lors d'une détérioration visible de l'état de santé de l'individu. La réforme simplifie aussi le parcours judiciaire. Les différentes étapes d'autorisation devant les tribunaux sont remplacées par une seule garde temporaire de 5 jours. Les dossiers relèveront désormais du Tribunal administratif du Québec. Et pour soutenir ces mesures, le gouvernement investit 104 millions de dollars sur 5 ans dans les services d'urgence psychosociale.
Ton Mehdi aime le vendredi, il s'est servi jusqu'à lundi. On s'est parlé toute la nuit, tout ça, ça tourne en rond. Mais ça restait juste du faux. Tu lances tes promesses en mer et tu fais juste parler, ça tourne en rond. Et quand t'as voulu me tester pour voir si j'allais rester, tout ça, je l'ai manifesté, ça tourne en rond. Quand j'ai dit bye bye.
Elle m'a dit bye bye, je lui ai dit check it peace, mais je la rends high high, elle veut que je lui check her peace. Je suis dans le tout avec mes goons, on est 20 deep. Elle pense que je suis avec des moons, mais je suis en train de faire des beats. Elle veut qu'on s'appelle et moi je suis toujours sous texte. Elle me calcule d'une façon comme si je suis toujours sous test. Je suis un gars super relax et elle est toujours sous stress. Mais elle est tellement super belle et elle est toujours sous sexe.
Quand j'ai dit bye bye, elle dit non, quand t'es high high, moi je suis lolo. Et tout ce back and forth, ça tourne.
Mon Dieu, je m'attendais pas à une fin aussi rapide. C'était Back and Forth de Bébé Puma avec Fléau Dacdi. Caprio, ouais. Excusez-moi, c'est un peu ardu, mais voilà.
Ah, c'est, il y a des lundis matins comme ça, où quelque part, on a donné notre langue au chat, puis c'est le cas de le dire, il l'a mordu.
Et, oui.
Et on s'en va en insolite avec Pierre Perrault. Pierre, on a deux sujets intéressants aujourd'hui. Alors, prenons peut-être le temps de commencer par un lieu tout à fait surprenant à Montréal.
Oui. Écoute, j'ai choisi d'ailleurs, pour débuter, deux lieux tout à fait surprenants. L'un à Montréal, l'autre à Mauricie. Les deux proposent quelque chose de réellement unique, voire déconcertant et dépaysant. On va commencer par une activité, tout ce qu'il y a de plus urbain. Après Barcelone, Amsterdam, Berlin, Saint-Pétersbourg, Montréal a son propre musée d'art urbain depuis l'automne 2018.
Ah, moi, j'ignorais ça, moi aussi.
Oui, moi aussi. Une galerie d'art de 24 étages, une initiative de l'entreprise québécoise Romeo's Gin. Celle-ci a mené de nombreuses initiatives pour démocratiser l'art urbain, comme la création du premier musée d'art urbain à Montréal ou la production et la commande de la plus grande murale à Toronto. C'est qui ça, Romeo's Gin? L'entreprise fait partie du groupe Duvernois Esprit Créatif, présidé par le brillant entrepreneur Nicolas Duvernois, un des dragons d'émission dans l'œil du dragon Radio-Canada, qui, avec son équipe, redouble d'efforts au quotidien afin de développer la prochaine idée folle de demain, explique-t-il lui-même. Cette chronique, pas plus que cette émission, ça c'est une mise au point que je veux faire, là.
Ouais.
Cette chronique, pas plus que cette émission, ne vise pas à promouvoir des marques de commerce, surtout pas des produits alcoolisés. Mais il importe de préciser que Romeo's, imaginé à Montréal et lancé en 2015, est une marque qui s'élève la créativité et supporte la communauté artistique.
Mmh.
Ensemble, nous pouvons faire la différence, démocratiser l'art et être entendus. Chaque produit de Romeo's Gin est conçu, réfléchi et imaginé avec l'artiste. 1% de chaque vente va directement au soutien de la communauté artistique, assure ses promoteurs. Donc, le musée Romeo's, parlons-en.
Ouais.
Ça se situe dans un secteur industriel du quartier Mile End, avenue de Gaspé. D'ailleurs, dans ce coin-là, il y a déjà beaucoup de murales.
Oui, c'est vrai.
OK. Donc, un musée pas comme les autres occupant les murs de deux cages d'escalier, d'un immense immeuble qui comporte deux entrées différentes, un grand immeuble de 12 étages, et le musée Romeo est entièrement voué à l'art urbain et expose 24 œuvres de 24 artistes montréalais ou qui viennent d'ailleurs, mais qui travaillent à Montréal. On peut ainsi contempler les œuvres de muralistes réputés, reconnus, tels Dal Caffin, Heidi Taillefer, Pony, Roxy Peroxide, Pat Quentin, un artiste montréalais que je connais bien, dont je possède déjà quelques œuvres.
Et moi aussi.
Ou encore Wetsi Adam. J'ai de la misère un peu comme toi à prononcer certaines.
Il y a des moments comme ça, les lundis matins difficiles.
Mais en fait, c'est la plupart de ces artistes-là, je ne les connais pas, mais je suis allé fouiller un petit peu. C'est des noms qui résonnent aux oreilles des connaisseurs et amateurs d'art urbain ici et ailleurs dans le monde. Comme le musée s'étend sur 12 d'étages, on recommande de prendre l'ascenseur afin de le visiter de haut en bas.
Ah ben oui.
À moins de vouloir faire de l'exercice, là.
Mais ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est plus facile monter que de descendre.
Oui, probablement. Mais c'est libre de toute façon.
Ben oui.
Et donc, le musée est non seulement gratuit, mais il est également accessible tous les jours de la semaine, de 6h le matin à 20h. Auparavant, il était ouvert 24h par jour. Mais j'ai vérifié, comme de raison, pour être sûr de donner les bonnes informations. Donc, de 6h le matin à 20h le soir, c'est l'heure d'accessibilité de l'édifice, selon les propriétaires de l'édifice. Donc, c'est une belle activité à faire entre amis ou en invitant quelqu'un à découvrir les artistes muralistes de Montréal. On peut en apprendre davantage sur le site web romeosgin.com.
Romeosgin.com. Et là, on s'en va à Mauricie.
Oui. Là, je vais vous parler de quelque chose de vraiment fascinant. Pas très loin de Trois-Rivières, à Saint-Mathieu-du-Parc, pour une incursion en terre et en époque médiévale. On se transporte au duché de Bicolline, qui vous permet d'être l'incarnation vivante de votre imaginaire et de le vivre pleinement dans un lieu unique qui transcende la réalité.
Ah, ça nous donne l'eau à la bouche déjà.
Ah, écoute. Ouais. Chaque année, au mois d'août, depuis 1996, se tient la grande bataille qui marquera le monde du jeu de rôle grandeur nature à travers le Québec. Et là, je vais obtenir plus de détails, mais je vous invite tout de suite à penser à aller voir le site web. Je vous donnerai l'adresse tantôt parce qu'il y a plein d'images qui sont encore plus évocatrices. L'événement de la Grande Bataille prendra rapidement de l'ampleur, des centaines de participants deviendront vite des milliers, et l'événement, qui durait 2 jours, s'étend maintenant sur plus d'une semaine complète d'immersion.
Ah ouais.
Après des années, Bicoline a développé toute une gamme d'activités immersives et un univers de jeu complet, permettant à ses joueurs de venir incarner leur personnage à l'année, parce que chaque joueur décide de son personnage.
C'est un peu du cosplay, qu'on pourrait dire, là.
Oui, exactement. Okay. À travers les différents événements qui sont offerts, les gens choisissent de jouer un rôle. Mais la Grande Bataille, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. C'est un événement en lui-même. Donc, en parallèle, tout un village s'est bâti autour de cet événement-là. Plusieurs centaines de constructions sont réparties en différents quartiers thématiques et font le charme unique au monde du duché de Bicoline. L'immense site bucolique parsemé de vallons et de forêts accueille un village médiéval. Ici, il n'y a pas d'électricité, que le feu pour cuisiner et illuminer torches et lanternes. Plus important rassemblement immersif médiéval fantastique au pays, il attire quelques milliers de participants venus vivre une expérience hors norme. Pendant une semaine, chacun aura son rôle, un personnage qui évoluera selon son rythme, son implication, ses actions, tant réelles que virtuelles. Paysans, artisans, conteurs, elfes, mercenaires, chevaliers, tous font partie de l'univers Bicoline. Le tout culmine avec la grande bataille épique, moment le plus attendu des participants. Les curieux, donc des gens, pas nécessairement des gens qui participent à la grande bataille, mais les curieux, comme moi je pourrais être, peuvent y aller vivre une journée comme spectateur le vendredi 14 août de cette année, pendant la grande bataille, lors de la journée découverte. Il faut s'inscrire et prévoir être costumé pour l'occasion. Ah. Donc, on ne peut pas y aller dans nos habits de ville. Il faut être costumé, même si on est juste un spectateur. Plusieurs activités sont proposées lors de cette journée. Pour le costume, une simple tunique ou une robe en lin avec une ceinture qui peuvent suffire. Style accepté, médiéval, renaissance, pirate, fantastique, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Viking, etc. C'est certainement une expérience magique qui attend les visiteurs. Fait à signaler, ça c'est bien dommage, mais un incendie, dans la nuit du 25 avril dernier, 22 bâtiments du quartier historique, le plus ancien, et celui où tout a commencé, sont partis en fumée dans un grand incendie.
Quel dommage, hein, oui.
Des années d'armures façonnées à la main, des costumes travaillés saison après saison, des armes artisanales, des objets qui portaient l'arme entière de guildes. Une grande campagne de financement et un mouvement de reconstruction ont été lancés. Une communauté solide s'est mise à l'œuvre pour que revive ce quartier historique décimé par l'incendie. Pour en savoir plus sur le duché de Bicoline et sur la Grande Bataille, ainsi que sur toutes les activités qui se prolongent jusqu'aux fêtes de fin d'année, parce qu'il y a des activités toute l'année. Là, je vous ai parlé de l'événement de la Grande Bataille. Visitez le site bicoline.org et il y a plein de photos et d'images qui vont vous donner le goût de vraiment aller faire un tour. Alors, voilà pour cette semaine.
Et on te revoit la semaine prochaine, Pierre.
Oui, j'ai déjà des sujets très intéressants.
Bien, ça s'est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine.
Grand plaisir.
Dans les coop de l'info, 9 juillet, une nouvelle étude apporte un éclairage scientifique sur les effets du télétravail sur la santé mentale des employés. Les données indiquent que le travail à distance ne dégrade pas systématiquement le bien-être psychologique. Les résultats démontrent plutôt que les impacts dépendent fortement de l'environnement familial et du niveau de soutien offert par l'employeur. L'isolement professionnel demeure le principal facteur de risque identifié pour le personnel à domicile. À l'inverse, l'absence de déplacements quotidiens et une meilleure flexibilité des horaires réduisent le niveau de stress global. Les chercheurs concluent que la formule hybride combinant présence au bureau et travail à maison offre actuellement le meilleur équilibre pour préserver la santé mentale. Radio-Canada.ca du 9 juillet, le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec franchit une nouvelle étape. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral s'associent pour moderniser le centre de services en psychiatrie ainsi que l'urgence de l'établissement. Les travaux prévus incluent la construction d'un nouveau bâtiment de 3 niveaux. Ottawa injecte 13,9 millions de dollars dans ce projet, dont le coût total dépasse les 145 millions de dollars. Cette modernisation vise à améliorer l'accès aux soins de santé dans la région de la capitale nationale. Toujours dans Radio-Canada.ca, du 9 juillet, le gouvernement de la Saskatchewan annonce une restructuration majeure de son programme de soutien aux revenus pour les personnes en situation de handicap. Les modifications apportées au programme SAID visent à simplifier les structures de paiement existantes. Plusieurs allocations secondaires autonomes, comme les frais de téléphone ou de buanderie, sont désormais intégrées au montant de base. La réforme réduit le nombre de paliers de prestations pour faciliter la gestion administrative. Selon le ministère des Services sociaux, 40 % des bénéficiaires verront leur montant mensuel augmenter. Les autorités provinciales garantissent qu'aucun usager actuel ne subira de baisse de revenus. Plus de 18 000 personnes reçoivent ce soutien financier en Saskatchewan. Ça va être beau et chaud aujourd'hui. J'étais pour dire même que ça va être sensuel parce que ça risque d'être collant, mais bon, je vais me retenir sur le reste des blagues là-dessus. Alors, je vous avise donc qu'il va faire chaud. L'humidex va monter jusqu'à 34 au Québec. Et il y a une veille, en fait, un avis orange dans le nord de l'Ontario. On parle d'un humidex à 45. Même, ça touche aussi le Manitoba. Et c'est plus frais en Colombie-Britannique, mais quand même, hein, une belle journée chaude. On va en profiter parce qu'on va se plaindre quand l'hiver va arriver. Après la pause, on va parler de mille et une patentes qui bougent et on va aussi parler de la génération Z et le travail. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Un peu de...
Un petit retour en arrière avec Lio et sa chanson « Amoureux solitaire ».
C'est toujours plaisant d'entendre Lio. Moi, je trouve ça réjouissant d'entendre sa voix, ses rythmes, mais même si ça date un peu, ça fait du bien. Et puis, c'est le temps de parler de « Mille et une patentes qui bougent », qui tiendra sa 6e édition au cœur du village de Val-David. Et ça, c'est du 18 au 26 juillet de cette année. Et l'événement s'articule autour de la poésie, de la douceur et du vivre ensemble à travers les arts, de la marionnette et du jeu masqué. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Julie Coquerel, qui est la coordonnatrice générale du festival. Bonjour Julie.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, Mille et une patentes qui bougent. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ce concept?
Donc, Mille et une patentes qui bougent, c'est un festival créé en 2021 à l'initiative de l'actuel comité de programmation, donc qui est composé d'un passionné de théâtre et le directeur de Mille et un pot, de deux marionnettistes et d'une metteuse en scène et professeur de jeu masqué. Donc, plusieurs activités sont proposées, notamment des ateliers, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Une série de spectacles à destination du tout public, mais également des spectacles spécifiquement destinés aux grands. Et puis, une exposition et des déambulations.
Parce que oui, ça s'inscrit un peu avec l'autre festival qui s'appelle Mille et un pots, c'est ça, hein?
Mais c'est créé à l'initiative de Mille et un pots au départ, mais ça s'est indépendantisé avec les années. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment séparé, même si c'est vrai que ça reste un partenaire majeur pour nous.
Alors, quel est l'esprit de cette 6e édition? C'est quoi votre thème de l'année?
La thématique générale, c'est quand même le lien avec la nature et puis la poésie, même si on présente un peu des spectacles. On a quand même une programmation qui reste éclectique. Mais on a surtout des... Oui, c'est ça. Donc, quand même la douceur, le vivre ensemble.
Et ça se matérialise comment, ça, dans les salles et sur les sites extérieurs?
Donc, c'est des sites extérieurs qui sont quand même des toutes petites jauges. Tout est relatif, mais on accueille en général entre 20 et 50 personnes par représentation, ce qui permet vraiment une proximité avec les artistes. Et puis, ça permet aussi de se retrouver dans un espèce de cocon, notamment dans les sites extérieurs, où on est vraiment plongé dans un écrin de verdure. Donc, on essaye de vraiment garder une ambiance très, très conviviale et puis qui permet une proximité.
Une proximité, puis une convivialité. Donc, la journée d'ouverture est marquée par le vernissage de l'exposition du Théâtre de la Dame de Cœur, un grand théâtre de marionnettes qui célèbre cette année 50 ans. Alors ça, c'est une collaboration cette année. J'imagine que ça allait de soi.
Oui, c'est ça, parce qu'une des choses importantes, donc on présente de la marionnette contemporaine et traditionnelle, mais une des choses importantes, c'est aussi de mettre en valeur le patrimoine marionnettique québécois, qui est quand même extrêmement riche, mais peu connu. Donc chaque année, on met de l'avant une compagnie historique du Québec. On a présenté par exemple Micheline Legendre, le Théâtre de l'Œil, et là cette année, effectivement, pour les 50 ans du Théâtre de la Dame de Cœur, on s'est dit qu'on pouvait pas manquer cette occasion. Et donc on a le plaisir de les recevoir pour 10 jours, et elles vont présenter leur marionnette géante.
Donc, c'est des marionnettes géantes qui ont été utilisées dans les spectacles du théâtre qui vont être présentées donc, dans cette exposition,
oui.
C'est ça? Oui. Oh, d'accord. Parlez-nous de la présence internationale, parce que, je pense qu'il y a une artiste qui vient d'Espagne.
Oui, c'est ça, Laura Cortés. Donc, en collaboration avec deux autres festivals de marionnettes au Québec, on a le plaisir d'accueillir Laura Cortés, qui présente son spectacle Bell Hop, qui raconte le quotidien d'un grand hôtel, donc la routine des employés qui, tout d'un coup, est bouleversée par l'arrivée d'étranges clients. Donc, elle présente ce spectacle-là. C'est un spectacle qui est présenté gratuitement, plusieurs fois pendant le festival. Et on a aussi on accueille également une compagnie irano-américaine qui présente You Have Arrived, donc Vous êtes arrivé, un spectacle pop-up, donc un spectacle de un peu comme un livre avec des dessins qui se déplient, oui. Je ne sais pas si vous voyez. Qui raconte les conséquences pour les migrants des changements climatiques.
C'est intéressant, une coproduction états-unienne-iranienne dans le contexte des choses.
Oui, vraiment. Ouais. C'est vraiment.
Et comment ça fonctionne, ce genre de collaboration-là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez parlé que ça va être sur les scènes extérieures, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, parfois, ça peut être dans les scènes intérieures, mais là, cette année, on les présente sur les scènes extérieures, donc... On a deux représentations pour Bell Hop, ou simplement parce que c'est des petits spectacles, c'est comme un peu des bijoux de valise. L'artiste arrive avec sa valise et puis de la valise sort une marionnette et un spectacle. Et donc elle s'installe là où on la présente. Je pense que dans le cadre de cette édition, ça va être sur le parvis de l'église, qui est un lieu extrêmement central et accessible à tous. Et donc, simplement, les personnes sont invitées à venir assister au spectacle.
Ce qui démontre que ouais, les États-Unis et l'Iran ne font pas seulement que s'envoyer des bombes, sont capables de travailler ensemble pour des spectacles comme celui-là.
Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours, en tout cas, dans le cadre de ce spectacle-là spécifiquement, c'est toujours délicat. Et en fait, on a dû travailler finalement, même si la production est irano-américaine, on a dû travailler avec une artiste québécoise d'origine iranienne, parce que la réalité des frontières aujourd'hui internationales font qu'on n'a pas pu recevoir l'artiste original.
Ah, wow. Ah, c'est encore compliqué, tout ça. Parlons d'accessibilité, parce que vous avez, je pense, une représentation sensoriellement adaptée avec le Puzzle Théâtre.
Oui, donc le spectacle Bois, qui a été présenté au festival il y a plusieurs années déjà, a été adapté sensoriellement pour pouvoir convenir à un public qui a des besoins spécifiques en termes de sensations, d'environnement, etc. Et donc, on reprogramme ce spectacle-là, mais adapté. C'est-à-dire que les dialogues sont un petit peu modifiés, les éclairages également. Et puis, on prend des photographies de l'arrivée de l'espace, etc., pour les envoyer d'avance aux personnes qui s'inscrivent, pour être en mesure de qu'ils se préparent ou qu'elles se préparent comme ils en ont besoin pour arriver.
Oui, c'est particulièrement important pour les personnes là, qui sont atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, d'avoir ce genre d'accessibilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques ou d'autres spectacles à signaler?
Oui, ben, je pense que le spectacle... J'ai deux spectacles que je trouve qui sont... tous les spectacles sont excellents, mais il y en a deux qui attirent particulièrement mon attention cette année, notamment le spectacle L'Archipel aux mille sons. Pour la première fois cette année, le samedi 18, donc ce samedi, on a une journée qui mélange... marionnettes et musique, et donc on présente le spectacle L'Archipel aux mille sons à destination des tout-petits, donc des 3 à 5 ans. C'est un spectacle qui est présenté 3 fois dans la journée et qui dure 30 minutes, et puis qui mélange théâtre d'objets et percussions pour introduire les enfants à la musique, mais aussi aux possibilités qu'offre le théâtre d'objets. Mmh. Et pour les plus grands, on a le Ballet d'ombre, donc il y a un spectacle qui est présenté le mercredi 22 juillet, et qui est du théâtre d'ombre sur sable. Donc, ça peut être difficile à imaginer, mais c'est vraiment, vraiment très beau, très poétique. Et puis, c'est une espèce de chorégraphie que la marionnettiste ou l'artiste, parce que là, on est vraiment à la jonction entre théâtre d'ombre et art visuel. Mmh. Donc, c'est un 45 minutes de récit dessiné sur du sable et reprojeté sur écran.
Je terminerai avec l'accessibilité encore. Combien ça coûte de participer au festival cette année?
Alors, on a plusieurs activités qui sont gratuites. Sinon, les activités pour enfants sont entre 10 et 20 $, je pense, parce qu'on a une tarification dynamique, plus solidaire que dynamique, je dirais, où les personnes peuvent choisir de dépenser 10, 15 ou 20 $.
Oui, une tarification solidaire, oui.
Oui, qui sont prêts à payer. Et puis, pour la première fois cette année, on a également un passeport qui permet de payer 70 $ pour avoir accès à tous les spectacles, sauf le spectacle notamment sensoriellement adapté, parce qu'on préfère qu'il soit réservé aux personnes qui en ont besoin.
On comprend ça. Pour plus d'informations, on va sur votre site web?
Oui, donc mille et une patentes qui bouge, milleunepatente.com, excusez.
Excellent. Bien, merci beaucoup, Julie Coquerel, coordonnatrice générale du festival Mille et une patentes qui bouge, et bon festival.
Merci. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Le soleil tombe, la lumière danse, les rues s'allument, c'est notre chance. Des éclats de rire, des verres qui trinquent. Ce soir on vit tout, c'est un sauf nos éclats. Si on oubliait demain, juste un instant, ma balle. Cœur qui est...
La chanson « On danse ».
Les Gengis, on peut penser qu'ils préfèrent danser à faire à travailler, mais bon, c'est pas tout à fait vrai, puis c'est toujours ce genre de préjugés dont on, qu'on devrait éviter. Alors, les Gengis, pour ceux qui ne savent pas qui sont ces gens, ce sont des personnes qui sont venues au monde entre 1997 et 2012. Comme je l'ai dit, chaque génération a ses caractéristiques et ses mystères. Je dis ça sans jugement parce que les générations plus vieilles en sont toujours intriguées et parfois lèvent le nez hein, sur celles qui suivent. Et vice-versa. Alors, comprendre les générations montantes comme les Gen Z, c'est important à plusieurs niveaux, notamment dans le milieu de travail. Et pour en discuter, je reçois Alexandra Maltais, qui est vice-présidente chez Randstad Canada, qui a fait une étude dont les résultats sont assez intéressants sur ce qui concerne la génération Z par rapport au monde du travail. Alexandra, bonjour.
Oui, bonjour, M. Martin.
Oui, bien, bienvenue. D'abord, parlons de votre étude. Comment vous avez fait cette étude? Comment ça a été? On parle de méthodologie là, pour qu'on se comprenne.
Oui, en fait, mais Randstad Canada, on a sondé plus de 3500 talents canadiens qui sont, en fait, comme vous dites, la population active, qui sont âgés donc de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, on a vraiment sondé des gens qui sont issus de profils démographiques complètement différents, niveaux d'éducation aussi. Donc, c'est une étude vraiment dans le but de pouvoir fournir un constat qui sur le marché du travail entre ce que les talents recherchent puisque les entreprises aussi, des fois, perçoivent que les talents vont rechercher au niveau de l'emploi.
Bon, alors on apprend que 42 % des travailleurs de cette génération, génération Z, prévoient changer d'emploi au cours des 6 prochains mois. C'est un chiffre colossal. Comment on explique ça?
Oui, en fait, cette statistique-là est assez prenante aussi quand on regarde. De façon générale, sur le marché du travail, là, on parle de 23 %. Donc, quand on prend toute la population active, c'est 23 % des gens qui ont un intérêt pour changer de travail au cours du reste de l'année 2026. Cette statistique-là est vraiment spécifique pour les Gen Z. Donc, on vraiment la génération Z. On regarde là, ce qui va, en fait, est particulier pour eux, ce qui va faire qu'ils vont vouloir changer, en fait, d'emploi. C'est vraiment principalement deux facteurs, là, mais on parle donc de conditions salariales, puis on parle d'équilibre travail, vie personnelle, vie professionnelle. Donc ça, c'est deux facteurs qui viennent en compte où, dans le fond, ce qu'eux se disent, cette génération-là, c'est j'ai besoin de pouvoir avoir une vision de ce qui s'en vient dans mon travail, donc en mon évolution de carrière aussi. Si j'ai pas cette visibilité-là, je vais aller voir ailleurs.
Oui, c'est intéressant parce que, comme je dis, là, je trouve que ça fait tomber des murs de préjugés là, ou d'idées préconçues. On attribue souvent à la génération Z des demandes salariales démesurées, alors que cette demande d'un salaire plus concurrentiel, ça touche 54 % d'entre eux et chez les baby boomers, c'est 77 %. Alors, si c'est pas l'argent, là, c'est quoi qui. On vient de discuter là, de conditions de travail, mais c'est quoi qui fait vibrer là, cette génération-là lorsqu'il choisit ou lorsqu'elle choisit un entrepreneur ou un employeur idéal?
En fait, la génération Z, ce qu'ils veulent, là, c'est vraiment pouvoir que leurs besoins soient comblés. Donc, ils vont agir rapidement si c'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est vraiment de regarder comment on peut bâtir des parcours de carrière interne qui sont clairs et rapides. Parce qu'il y a quand même un pourcentage de ces gens-là qui désirent évoluer au sein de la même entreprise. Donc, message aux employeurs à l'écoute, le but n'est pas de dire que tout le monde dans cette génération-là va quitter, en fait, mais c'est vraiment de dire c'est quoi mon parcours de carrière dans l'entreprise. Donc, ça, pour répondre un petit peu à votre question, c'est un peu ça. C'est vraiment ce qu'ils vont rechercher, c'est cette évolution-là, cette visibilité-là de comment ils peuvent évoluer à ce moment-là.
Donc, ça dépasse l'idée d'être fidèle à une entreprise. Bien qu'on aimerait bien être fidèle, mais il faut que cette entreprise-là soit capable de dire, ben oui, il y aura des facilités d'entreprise, d'apprentissage, il y aura des possibilités de monter. Donc, l'avenir, il faut vraiment parler de cet avenir-là. En fait, j'ai l'impression qu'on retourne à des valeurs qui étaient des valeurs importantes pour, en fait, ma génération à moi, là.
Ben, je dirais tout à fait. En fait, l'environnement, ce que les gens vont rechercher, puis ce qui vient au deuxième, dans le fond, ça arrive avec Seco. En fait, on parle de conditions salariales, mais on parle aussi de cet équilibre-là. Par contre, c'est l'environnement de travail qui est positif. On va parler des modalités qui sont flexibles. On est d'accord que les modalités de la flexibilité, par exemple, pour du personnel d'usine versus du personnel de bureau, n'est pas la même nécessairement. Donc, il y a quand même... oui, je pense qu'à votre point, on peut retourner sur certains facteurs. L'autre, c'est vraiment la charge de travail qui est raisonnable. Donc, c'est pas de dire de pas travailler, mais c'est de s'assurer que ça soit raisonnable pour qu'on sente qu'il y ait cet équilibre-là. On s'aperçoit aussi qu'il y a une perspective en ce que l'employeur va percevoir que les gens vont avoir de besoins versus ce qui va être dit au niveau des talents. Je vous donne un exemple. Les entreprises vont nous dire, ben moi, je peux offrir de la sécurité d'emploi. Mais en fait, c'est très clair que c'est pas l'élément marquant spécifiquement pour la génération Z. Ce qu'eux veulent, comme je vous expliquais, c'est une rémunération au niveau du marché du travail qui est au bon niveau et un équilibre, dans le fond, vie professionnelle, vie personnelle.
Oui, alors cette fameuse équation, le travail, famille, c'est important. Pour cette génération-là, peut-être... peut-être plus que les... Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais ma génération, on ne pensait pas trop à ça. Mais on se rend compte qu'ils ont peut-être raison, finalement, que le travail, ce n'est pas tout dans la vie. Il faut aussi avoir un équilibre mental, un équilibre entre le travail et la famille.
On peut effectivement apprendre de toutes les générations. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le milieu du travail des centres d'apprentissage qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de générations qui apprennent les unes des autres.
Oui.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les employeurs, c'est de prendre, en fait, par exemple, les générations qui sont là depuis bon nombre d'années peuvent avoir acquis de l'intuition, des fois sur différentes machineries, par exemple, ou une connaissance vraiment approfondie. Donc, peuvent partager cette connaissance-là avec les générations qui entrent sur le marché du travail, qui pourraient transmettre tout le côté technologique, par exemple, aux autres générations.
Donc, un dialogue intergénérationnel, ça pourrait faire partie des choses à créer ou à implanter dans les entreprises.
Effectivement. Moi, le message que j'ai, en fait, pour les employeurs à l'écoute, là, parce que des fois, ça peut paraître un peu 42%, c'est beaucoup. Hein,
ça fait peur, mais c'est... Ouais.
Ça peut faire peur, en fait. Puis l'objectif n'est pas de tout réinventer quand on veut vraiment attirer, fidéliser, en fait, nos employés. Je dirais que la première chose, là, ça serait de s'assurer vraiment de se concentrer à s'assurer que votre rémunération, là, dans le fond, cher employeur, soit alignée, la rémunération globale sur le marché. On veut sécuriser nos employés. On veut s'assurer qu'on a une bonne stratégie pour, parce que retenir ces employés-là, c'est la clé. Puis la première chose, ils ont été très, très clairs, la rémunération globale, dans le fond, ça, c'est l'élément numéro un. Deuxième chose, c'est vraiment de maintenir cette expérience de travail-là, s'assurer d'être à l'écoute, d'être le plus flexible possible. Et vous parlez de la génération des milléniaux, la génération Z, eux, ce qu'ils veulent, c'est cette modèle hybride-là. Donc, d'être à l'écoute. Et puis, le troisième pilier, c'est vraiment d'être le côté humain. On n'en a pas parlé, mais il y a vraiment une statistique qui est super intéressante dans l'étude qui est ressortie sur... On parle beaucoup d'IA, on parle d'automatisation dans les médias, on en parle partout. Et c'est vraiment de s'assurer de garder ce côté humain-là, même à partir du processus de recrutement.
Ben oui, parce que j'allais là justement dans ma prochaine question. Ces jeunes talents privilégient massivement les plateformes comme Google pour emploi et médias sociaux pour dénicher des opportunités. Et ça tombe à 72% au moment de postuler. Mais il y a aussi le fait qu'on parle de l'importance du contact humain. Excusez-moi, l'importance du contact humain, c'est 72% au moment de postuler. Donc, on est bien content d'aller chercher des opportunités sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Mais quand vient le temps de postuler, on veut que ça se passe, qu'il y ait une expérience humaine là-dedans. Ça, c'est quel message ça envoie aux recruteurs, là?
En fait, le message qui est envoyé, c'est vraiment... Oui, c'est beau, là, tout ce qui est la technologie, mais les talents sont assez clairs. Ils ont envie de parler à un humain, même dans le fond, principalement au moment de postuler, comme vous dites. Donc, intégrer des interactions humaines dès la première étape, puis miser sur des programmes de référencement interne, ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Le message est clair. Donc, le recruteur, là, ce qu'il doit comprendre, c'est que, oui, on comme entreprise, en recrutement, on peut utiliser de l'automatisation. Donc, on peut travailler sur du numérique, mais il faut vraiment que ça soit confirmé par l'humain. Donc, vraiment, dans le processus, c'est de s'assurer qu'il y ait des étapes clés qui sont vraiment faites d'humain à humain pour garder, en fait, cette touche personnelle-là. Ça, c'est quelque chose que les talents ont été assez clairs qu'ils recherchent.
Je terminerai peut-être en disant que la situation actuelle, c'est que c'est vrai que les taux de chômage sont bas. Alors, recruter et maintenir la main-d'œuvre, c'est important. Alors, cette étude-là, d'après vous, ça va aider là, les employeurs? Oui.
Tout à fait. En fait, les employeurs, on est en mesure de regarder. On parle même, en fait, de la perspective entre la différence entre les hommes et les femmes, par exemple. Donc, cette étude-là va vraiment permettre de regarder, de faire une introspection en entreprise, de dire, ben, est-ce que j'ai un programme de rémunération globale qui est clair? Est-ce que j'ai un programme, par exemple, d'évolution de carrière? Est-ce que je peux me permettre d'être flexible comme entreprise? Ça veut dire quoi, la flexibilité? Donc, c'est toutes des questions, en fait, sur lesquelles chaque entreprise peut vraiment regarder s'il y a des choses en place, puis à ce moment-là, ben de pouvoir améliorer certaines facettes, dans le fond, du processus, soit de la rémunération, pour vraiment s'assurer de retenir et mobiliser, en fait, leurs employés.
Alors, un regard très éclairant, Mme Maltais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Alexandra Maltais, vice-présidente chez Randstad Canada. Merci.
Merci.
Presse Plus du 9 juillet, un rapport accablant dénonce les conditions de détention des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme au Québec. L'enquête révèle des lacunes systémiques majeures dans le milieu carcéral provincial. Les conclusions indiquent qu'aucune mesure d'adaptation concrète n'a été déployée pour répondre aux besoins spécifiques de cette population vulnérable. Les détenus concernés se heurtent quotidiennement à une absence totale de services de soutien spécialisés. Cette situation entraîne une incompréhension des règles carcérales et augmente de manière significative les risques de sanctions disciplinaires injustifiées. Plusieurs intervenants du milieu juridique demandent des réformes immédiates pour corriger ces manquements. Le document recommande l'intégration systématique d'éducateurs spécialisés au sein des prisons. Il propose également la création d'unités de vie adaptées pour garantir la sécurité et la dignité de ces personnes. Dans un communiqué du 9 juillet, le gouvernement du Yukon officialise un protocole de financement de 3 ans avec la Queer Yukon Society. Cette entente garantit le versement d'une enveloppe globale de 1,125 millions de dollars d'ici 2029. Les subventions annuelles s'élèvent à 375 000 $ par exercice financier. Cette contribution permet d'assurer le fonctionnement de la structure administrative. Les sommes accordées soutiennent le déploiement de 25 programmes communautaires décentralisés à Whitehorse, Dawson et Watson Lake. Le financement appuie également l'organisation des rassemblements annuels de la fierté et le maintien d'espaces d'accueil sécurisés. L'organisme sans but lucratif a vu le jour en 2011. Après la pause, il sera question d'un laboratoire adapté aux personnes vivant avec un handicap. Et on va recevoir donc Mouloud Boukala, qui est professeur de l'École des médias de l'UQAM, pour en discuter. Et on reçoit aussi Chloé Sainte-Marie, qui vient d'être nommée à l'Ordre du Canada. Et je vous rappelle à la météo, donc, c'est une journée chaude et collante et humide presque partout au pays. Et il y a des possibilités d'orages ou d'averses en fin de journée. Il y a des alertes. En fait, il y a une alerte orange en Ontario, notamment au nord d'Ontario, surtout, où il va faire très chaud et très humide, et aussi au Manitoba, une alerte jaune dans le reste de l'Ontario et en Abitibi. À plus.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bébé, te souviens-tu quand tout est encore nouveau? Quand tout est encore si beau, c'est moi, me reconnais-tu? Dis-moi que tout est encore possible. Dis-moi qu'on écrit encore le livre pour le meilleur et pour le pire. Encore et t'élèves.
prendre un bain sur la lune. Parce qu'au fond, l'amour est insalubre. On se reconnaît plus quand les lumières s'allument. Je serai ton inconnu de 15 jours. Jusqu'à ce qu'on se perde à nouveau. All I need is love. J'ai trouvé l'amour avec toi, mon ami, my love. Quand tout était encore fragile, comme on avait le feu facile. Qu'est-ce qu'on est devenu? Maintenant que tout ce qui compte c'est la famille, est-ce qu'on serait rendu un couple banni? Pour le meilleur et pour le pire, ton corps et tes lèvres, on ira prendre un bain sur la lune. Parce qu'au fond l'amour est insalubre. Quand les lumières s'allument, je serai ton inconnu qu'un jour, jusqu'à ce qu'on se perde à nouveau.
Claude Bégin et sa chanson pour le meilleur et pour le pire.
Nous, on s'en va pour le meilleur parce que l'Université du Québec à Montréal vient d'inaugurer une infrastructure unique, en fait unique du moins au Québec, un laboratoire handicap, surdité et innovation. Pour en parler, nous recevons Mouloud Boukala, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM et co-titulaire de ce laboratoire. Bonjour, professeur Boukala.
Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous.
On est très content de vous recevoir. Alors, parlons de ce laboratoire qu'on dit HSI, là, pour handicap, surdité et innovation. Qu'est-ce que c'est vraiment?
Juste un point, c'est handicap, sourditude.
Sourditude
et innovation.
Oui, j'avais.
Donc, juste un petit point. Surdité, on est vraiment dans le modèle médical, c'est l'état audiologique d'une personne. Ouais. Et sourditude, c'est un concept développé par Paddy Ladd dès 2003, où il fait le distinguo entre l'approche médicale et l'approche expérientielle vécue. Donc la sourditude, on insiste plus sur le vécu expérientiel des personnes sourdes.
D'accord, donc c'est important de savoir. Mais qu'est-ce que c'est ce laboratoire?
Donc c'est un laboratoire qui se veut inclusif et collaboratif, un lieu de convergence entre recherche, création et innovation sociale et médiatique. Et l'objectif principal, c'est de renforcer la citoyenneté culturelle des personnes sourdes, neurodivergentes, en situation de handicap. Voilà.
Alors, pourquoi ce laboratoire?
Donc, il y avait cette idée, on s'est rendu compte que les personnes de la diversité capacitaire at large, donc qui recouvrent les personnes sourdes, neurodivergentes et en situation de handicap, ne veulent pas être uniquement spectatrices. On les envisage souvent comme des publics, alors qu'elles veulent être acteur, actrice. Donc, il y a cette idée de citoyenneté culturelle qui englobe à la fois la participation sociale, les productions culturelles, artistiques et médiatiques, et la visibilité des acteurs sociaux concernés.
On parle vraiment au niveau des médias, au niveau des arts. Là,
ouais. Au niveau des médias, au niveau des arts. C'est-à-dire que souvent, dans les productions artistiques, médiatiques et autres, les personnes premièrement concernées sont mobilisées sur des créations qui ont été pensées et développées et ou produites par des personnes capacitées. C'est-à-dire qu'on va les chercher, on leur demande de jouer, de participer, mais elles n'ont pas été présentes, initiées, dès le début du processus d'idéation et de création.
Et ce laboratoire, donc, va permettre ça.
Voilà, c'est vraiment cette idée de produire des contenus inclusifs, renforcer l'autoreprésentation des personnes premièrement concernées, et c'est vraiment cette idée de « avec, par et pour », et dès le début du processus d'idéation. C'est-à-dire qu'on propose un design inclusif dès le début du processus d'idéation.
C'est une approche qui est complètement... qui change, hein, les positions de pouvoir, parce que c'est ça, là, habituellement, c'était les personnes qui ne sont pas affectées par ces situations de handicap qui faisaient les choses pour les personnes.
Et qui continuent de le faire encore.
Et continuent de le faire encore, oui. Alors, c'est ça que ça va changer un peu. Comment c'est financé, ce projet-là?
Donc, c'est un projet qui nous a pris 4 ans d'élaboration et de travail acharné. Le laboratoire a été inauguré le 26 mai dernier. Et c'est un laboratoire qui a obtenu en 2022 un financement de 1,3 million de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation, la FCI. Mmh. Et l'UQAM peut se targuer, c'est la première fois que l'UQAM recevait le montant le plus important de financement dans le cadre du programme Fonds des leaders John R. Evans de la FCI.
Vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là. Vous êtes en collaboration avec Véronique Leduc, qui est elle-même, je pense que c'est la chaire de recherche sur les médias et les handicaps, c'est ça?
Non, alors donc la FCI rassemble 2 chaires de recherche. D'accord. Du Canada. Donc il y a la chaire de recherche du Canada sur...
Ça, c'est vous, ça.
Sur les médias, les handicaps et les auto-représentations. Ouais. C'est celle dont je suis titulaire.
Ouais.
Et la co-responsable, c'est Véro Leduc, qui, elle, dirige titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité et la citoyenneté culturelle des personnes sourdes.
Alors, comment ça fonctionne, ce travail à deux? Parce que, comme je dis, vous n'êtes pas tout seul là-dedans.
Oui, donc, on travaille en binôme. Ouais. Tout le laboratoire a été pensé en binôme. On a mobilisé beaucoup de personnes premièrement concernées pour nous aider à concevoir les 8 salles pour qu'elles soient totalement inclusives. Et on développe une programmation scientifique ensemble.
Je suis un petit peu curieux, comment est-ce qu'on peut adapter une salle, un laboratoire comme ça pour des personnes, disons, en situation de surdité ou de handicap auditif?
Donc, le laboratoire se compose de 8 salles, on pourra les décrire si vous voulez, mais toutes les salles sont accessibles. C'est-à-dire que toutes les salles présentent une activation par un bouton poussoir où on passe juste devant, pas physique, où on passe juste devant. Toutes les salles ont un éclairage, à l'exception de certaines salles de montage et autres, mais les salles d'idéation et de développement de projet ont un éclairage naturel et on a également un éclairage indirect. Toutes les salles présentent également une sonnette visuelle, c'est-à-dire que si les personnes sont en réunion, quelqu'un sonne, ça s'allume au milieu de la salle, idem pour une alerte incendie visuelle, et une grande partie des murs sont peints en gris. Ça offre le meilleur contraste pour l'interprétation LSQ.
Okay.
Et quand on dit c'est vraiment inclusif, on a des toilettes inclusives. Et par exemple, si on prend, il y a une de nos salles qui est la régie de sons et de signes. Et là, vous êtes sur une régie où on mixe des sons enregistrés. Les sons peuvent être enregistrés avec, on a des technologies dernier cri, notamment des micros ambisoniques. Les micros ambisoniques captent le son à 360. Okay, vous enregistrez une ambiance sonore à 360. Après, il faut pouvoir la traiter. Okay, et donc, là, vous allez dans une régie. Et dans une régie, on a le petit Dolby Atmos, c'est-à-dire c'est un ensemble d'enceintes qui reproduisent le son à 360 degrés. Or, le principal défi des enceintes, des haut-parleurs comme il y a ici, c'est qu'ils entravent la circulation des personnes en fauteuil roulant.
Ben oui.
Okay. Donc, on a fait tout un travail où les enceintes, les 16 enceintes, une grande partie a été encastrée au mur. C'est-à-dire qu'une personne qui circule en fauteuil roulant peut venir mixer les sons, elle peut aller dans la salle de montage, elle peut ouvrir toutes les salles et être complètement autonome.
Qu'est-ce qu'on espère qui va émerger de ces laboratoires? Qu'est-ce qu'on va voir un jour ou l'autre?
Donc, c'est vraiment un travail de collaboration, de recherche-action. On va mener des projets avec... des entités culturelles, des institutions culturelles, avec l'idée de comprendre les perceptions des personnes premièrement concernées. Donc, pour comprendre comment elles accèdent à un bâtiment, comment elles accèdent à une programmation, comment elles accèdent à des œuvres d'art pour notamment améliorer leur accessibilité. Donc ça, c'est tout un travail qui va se faire avec des oculomètres. Les oculomètres vous permettent de mesurer vos saccades oculaires. Donc, il y a tout ce travail qui va être fait. Il y a également tout un travail qui va être fait de mise à disposition du matériel sur des projets pour des auto-représentations, pour des formations sur comment poser sa voix, comment s'auto-représenter. On a également du matériel, une imprimante braille avec un clavier braille. Mmh. Si on désire rendre des œuvres 2D en 3D pour les personnes aveugles, et on est en train également de se doter, on a également une vitrine holographique. Une vitrine holographique, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les salons en design ou des salons automobiles. On nous présente des prototypes qui vont être amenés à être développés. Et là, la vitrine holographique, l'idée de cette vitrine, c'est de rendre la langue des signes, qui est une langue signée en 3D, de la restituer en 3D. Parce que dès que vous faites une vidéo, vous passez en 2D et vous perdez une dimension.
C'est vrai. Je reviens juste rapidement sur ce que vous avez dit, sur poser sa voix. Pour ceux qui ne me voient pas, moi, j'ai toujours une oreille dégagée de mes écouteurs parce que j'ai besoin de m'entendre pour poser ma voix. Une personne qui a un problème, n'importe quel problème de sourdité, ça peut poser problème. Comment on peut poser sa voix?
Donc ça va être des enjeux. Donc nous, ici, il y a cette idée de rendre... au travers de ma chaire, rendre l'industrie médiatique plus inclusive. Et donc, il y a cette idée de travailler avec les MUSE, un organisme de centre des arts et de la scène, et la DCQ, les directrices de casting, l'association des directeurs et directrices de casting du Québec, où l'idée, ce serait de former les personnes, comédiens et comédiennes, à exploiter leur voix, à poser la voix, à l'enregistrer pour qu'ils aient des maquettes, des démos, oui, pour pouvoir appliquer sur des rôles de doublage, et ainsi de suite.
Vraiment intéressant tout ça. Merci beaucoup à vous, Mouloud Boukala, donc, d'avoir pris le temps de nous présenter ce nouveau laboratoire.
Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Ça a été un plaisir.
Merci.
Nikashin, apun
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Coaticook, Mazaklan, Manitou, Mégantic. Manouan, Ivoujivik, Mascouche, Maniwaki. Saskatchewan, Shipshop, Matawan, Windigo. Kamouraska, Témiscamingue, Copan, Chibougamau. Notre terre était grande.
On vient d'entendre deux chansons de Chloé Sainte-Marie, Machapen Nitassinan, et juste avant, on entendait Chin Nakawe.
Oui, puis juste pour vous dire, on a un problème de communication présentement qui nous empêche d'avoir cette entrevue qu'on devait faire avec Chloé Sainte-Marie, qui se retrouve présentement aux îles de la Madeleine, alors en tournée là-bas. Et on voulait souligner donc le fait que Chloé a été reçue à l'Ordre du Canada pour souligner son engagement artistique et social, parce qu'on sait que Chloé Sainte-Marie a fait beaucoup pour les proches aidants, ayant été elle-même proche aidante de son ex-conjoint Gilles Carl, qui est décédé. Et elle a aussi beaucoup travaillé avec les premiers peuples, notamment avec cette première chanson qu'on a entendue d'elle, qui est en langue Inuamun. Et donc, on va essayer de se reprendre une autre fois pour cette entrevue avec Chloé Sainte-Marie. J'en profite pour vous parler d'un spectacle que je suis allé voir la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as vu ça, Mathieu, c'est Les Misérables.
Oui, je l'ai vu trois fois.
Mais là, je parle de cette production. aussi, en fait, là, je vais vraiment passer pour un maniaque ou quelqu'un qui se vante. J'avais compté, je l'ai vu neuf fois, neuf fois. Oui, mais il faut dire que ça a été, ça date de 1985, si je ne me trompe pas, la première version. En fait, non. La première version, ça date, non, 85, non, 88, 89, parce que la première version, ça a été fait lors du bicentenaire de la France, ou de je ne sais plus quelle république, mais c'était à l'époque, donc une première version en français, ça a été jouée à Paris. Et il y avait de grands chanteurs, Michel Delpech était là-dedans, Salvatore Adamo, mais ça n'a pas fait long feu. Et ça a été repris par Cameron McIntosh, un Anglais, britannique, et il en a fait cette version, en ajoutant d'ailleurs la chanson de ce beau solo là, de Jean Valjean, du ciel, d'aider ce jeune Marius. Je vous dis ça parce que j'ai vu cette production, qui est à mon avis la plus belle que j'ai vue. Et pas seulement parce que c'est en français, et pas seulement parce que c'était des Québécois. D'ailleurs, c'est une production française, mais qui a été donc amenée ici à Montréal. Et ce sont tous des interprètes québécois qui jouent. Et c'est tellement bien réussi, tellement beau. Le décor, la scénographie, c'est à couper le souffle. Et pourtant, c'est très simple, beaucoup plus simple de ce que j'ai vu, moi, sur Broadway, ce que j'ai vu dans le West End à Londres. Plus simple, mais tellement plus efficace et tellement bien ressenti. Moi, c'était un gros coup de cœur pour moi. Et c'est fou, j'y allais de reculons, parce que je me disais, j'ai déjà vu ça, mais je voulais juste voir des interprètes québécois. Et j'ai été agréablement surpris. Alors, ça va faire tourner, pour ceux qui ne nous écoutent pas à Montréal, ça va faire une tournée au Québec. Et je ne sais pas s'ils vont sortir du Québec, là, ça sera à voir. Mais bon, si vous avez la chance de voir ce spectacle, ça vaut la peine.
Du ciel, notre Père, je t'implore d'écouter ma prière. Il est jeune. S'éclore une fleur, laisse-le vivre comme un homme, comme un homme. Il est le fils que j'aurais eu. Tu m'avais donné un fils, mais c'était Marana. Je sens mon cœur qui s'éteint. J'ai fait mon temps et je t'attends. Mais qu'il vit. Laisse-le vivre.
Robert Marien, sa version de Comme un homme.
Ouf! Et je vais vous dire que celle d'Alex Gaumont aussi vient vous chercher droit au cœur. Puis je vais quand même souligner là, les artistes de cette production, j'ai le temps. Dominique Côté dans Javert, quel baryton extraordinaire. Moi, c'est aussi Amélie Ballant Capdet qui joue Cosette. Elle a poussé une note, ça m'a tellement surpris. Le rossignol est sorti de sa gorge. Qu'est-ce que c'était merveilleux, fantastique. En fait, je n'ai que de bonnes choses à dire. Et un autre coup de cœur, je dois vous dire aussi, c'est Annick Assa qui joue Enjolras dans. Donc, cette production entièrement québécoise de Les Misérables. Si vous avez, ça passe par chez vous, il y a encore des billets disponibles. Je pense que ça va être mon gros coup de cœur pour 2026. Je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On va essayer de se reprendre pour l'entrevue avec Chloé Sainte-Marie. Malheureusement, on a eu des problèmes de communication. Je rappelle que c'est une journée chaude, très chaude dans certains endroits du pays. Et les UV sont assez élevés. Alors faites attention à vous. Je remercie notre cher Mathieu Tessier. Merci d'avoir été là et d'avoir poussé la note aussi parce qu'on ne l'a pas entendu, il n'a pas ouvert son micro. Et remercie aussi Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche aujourd'hui. Hélène sera de retour demain à l'animation. Je m'appelle Denis Martin Chabot et puis en reprise cet après-midi, on repasse une autre édition de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Alors, nous, c'est à la semaine prochaine. Au revoir.